Move. Hip hop. Move. 19:00, bienvenue à vous, c'est After Rap. Hip hop. Never stop.
Move. After Rap.
Jusqu'à 20h.
Move.
Salut ma pote, salut mon pote, c'est parti pour After Rap avec moi ce soir. Mehdi Maizy dans la maison. Salut Mehdi, ça fait plaisir, ça fait longtemps qu'on t'a pas accueilli.
Ça fait très longtemps, merci beaucoup. Ce franc, je suis là pour dire des choses.
Eh ben, on le sait.
Ça va être une grande émission.
On est chaud ce soir.
Je ne veux pas suivre ce conducteur.
Laissez-moi faire. Fif de Bouscapé est là aussi, salut Fif.
Bonsoir, je suis là. Alors, je tenais à dire merci à mes soutiens WhatsApp du groupe After Rap qui m'ont soutenu parce qu'on a voulu m'évincer aujourd'hui. Mais je suis là, heureusement que je suis là, donc avec toute la ligue du MDR. Donc, grosse émission en perspective aujourd'hui. Restez branchés jusqu'à la fin, ça va chier.
Pour bien expliquer le truc, c'est que Joss devait être parmi nous aussi ce soir et Fif avait insisté pour venir. Et heureusement que Fif est là parce que sinon on serait retrouvé que trois. Donc, merci.
Ouais. Voilà, c'est merci très important
d'être parmi nous. Merci parce que Joss a eu un contre-temps et il sera pas parmi nous finalement. Jenono est là ce soir. Salut Jenono.
Salut, bonjour tout le monde. Ça va, tout va bien.
Tranquille.
Ouais, au max.
Et puis, bien sûr, Yeri. Salut Yérim, ça va Yérim, tranquille
ben ça va Pascal.
Et ben voilà, la team est tout complet. Restez connectés, on va parler de plein de choses ce soir, l'actu du rap français bien sûr, et on va attaquer par Booba Karis. Est-ce que c'est la fin du clash, la fin de l'octogone? On en reparle après Landy le dinosien, et puis on va survoler plein de trucs aussi, donc restez connectés jusqu'à 20:00 sur Move.
Les tombes, pour remplir le frigo, faut pas qu'on fasse des cons. Je vois plus de zéro quand c'est l'heure des cons. J'suis dans la merde, j'suis dans la merde. J'suis dans la merde, j'suis dans la merde. J'essaie de changer, mais c'est toujours la même. J'suis dans la merde, j'suis dans la merde. Maman, j'étais obligé. Tout niquer dans la street, même si ça plaît pas. Et la banaliser. Et t'es prête à tout pour que j'finisse au star. Sans ma 5, j'suis dans le cœur. Je calcule même plus ses clochards. J'ai des frérots qui partent en face. A plus de 200, on trace. Ouais, 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 ouais. Faut mailler. Si j'arrive à faire partir le 500, ça va aller. J'allume le bigot, mais personne ne répond. Chargez le peupon, je marche entre les tombes. Pour remplir le frigo, faut pas qu'on fasse des cons. Je vois plus de zéro quand c'est l'heure des comptes. Avec la dernière
paix. Restez connectés, c'est toujours After Rap.
Move.
After Rap.
Jusqu'à 20h.
Move.
Pascal Sefran.
Et avec moi ce soir, je le répète, Mehdi Maizy, Fif de Bouscapé, Jenono et Yérim. Et on va survoler toute l'actualité rap de la semaine. Et on attaque donc avec Booba Karis. La seule question, c'est est-ce que c'est la fin du clash? Les gars, qu'est-ce que vous en pensez? Je vais attaquer par... Oulala, je vais attaquer par...
Je pense que c'est une question pour Mehdi Maizy. Mehdi, quel est ton avis là-dessus?
Bah écoute, la fin du clash,
tu
je ne pense
Mehdi,
pas.
La fin du clash, tu penses
pas? Non, je pense pas que c'est la fin du clash en tant que tel, parce qu'à mon avis, ils vont continuer à se clasher, à s'envoyer des vannes. Après, est-ce que la question que tu poses, je pense, c'est est-ce que ce combat va réellement arriver? C'est ça que tu poses.
Là, oui, on se posait tous la question, on pensait tous que ça n'allait pas arriver, après on se dit why not, mais là, ça sent vraiment...
Ouais, moi, j'avoue que j'ai du... Enfin, en vrai... Moi, en tant que spectateur, j'ai pas envie que ça se passe. Genre, ça me, je pas, c'est pas un truc qui m'excite énormément, quoi.
Je te rejoins sur ce sujet.
Mais après, je pense pas. J'ai pas l'impression qu'ils vont réussir à le faire. Et en vrai, je me demande comment ce truc-là peut, je sais pas, comment, enfin, après ce qui s'est passé entre eux, comment ça peut, comment on peut accepter que ça se passe. Et je vois pas comment ce truc ne peut pas déborder en réalité. Donc, j'ai du mal, moi, à me dire que, ou, enfin, que ça va dépasser les clashs Instagram. J'arrive pas à me, à me modéliser, tu vois, ce spectacle en fait.
Ben on verra, peut-être affaire à suivre. Fifth, t'as un mot à dire là-dessus ou pas?
Moi, je pense que ça se fera pas. Karis, il veut le faire en Tunisie. Booba, il veut pas aller en Tunisie. Il veut le faire à
l'étranger. Voilà, c'est ça qui fait que c'est la fin du clash pour moi. Ils ont trouvé un point pour un peu.
Après, ils ont peut-être trouvé quelque chose.
Non, moi, je pense que chacun va rester sur ses positions, tu vois. Karis, il a dit, moi, j'ai un truc concret avec du genre et tout. Booba, lui, il veut pas. Il dit, moi, j'ai un truc à Luxembourg, Belgique, etc. Et puis, bah, il dit, bah, tant pis. Et je pense que ça va rester comme ça. Ils vont continuer sur Instagram. Mais c'est mieux comme ça. Et au pire, ils font des morceaux et on écoutera les morceaux. Mehdi mettra ça dans les
d'ailleurs, est-ce que Booba ne devait pas envoyer une réponse à Octogone ou pas?
Si, il est en train de la préparer sûrement.
Ça va arriver selon vous?
Non, j'ai pas d'infos là-dessus.
T'as pas d'infos là-dessus? Jenono, il a été déçu parce qu'il voulait voir du sang, lui, je sais. Donc,
Non, c'est pas spécialement que je voulais, mais bon, ouais, ça faisait un divertissement. Non, après, je pense que là, pour le coup, Karis, lui, enfin, t'as l'impression qu'il est fatigué, que tu vois, limite, il va même plus répondre à Booba. Je pense que Booba, il va pas lâcher l'affaire parce que c'est pas quelqu'un qui lâche l'affaire de manière générale. Mais Karis,
c'est vrai que pour Karis, son dernier message,
l'impression qu'il a mis un peu le point final. Il s'est dit, vas-y, soit tu fais ce combat-là, soit on s'arrête là. Et à mon avis, il va juste lâcher l'affaire.
Et c'est aussi une manière pour Karis d'arrêter cette histoire. Yérim, t'as un mot à dire là-dessus ou pas?
Ouais, non, je pense que pareil, Karis, c'était en plus c'était son échappatoire. C'est-à-dire, il lui a fait un ultimatum, il a fait bon, t'as dépassé et tout. Maintenant, c'est fini, machin. Voilà. Après, bon, ce qui est drôle, c'est qu'il l'utilise de la manière. Il utilise un peu la technique de Booba, c'est-à-dire quand il te fout un gros plan avec marqué route de l'octogone sur sur son clip avec Brabus, tu vois. C'est marrant, c'est-à-dire qu'il surfe un peu dessus.
Il en parle aussi dans le coupé, il fait une phase sur l'octogone.
Il dit ouais, je rentre dans l'octogone, je sais pas quoi. Donc ouais, lui, je pense qu'il s'amuse. Après, en vrai, je pense que Booba aussi il s'amuse. Mais maintenant, ouais, j'ai du mal à imaginer un truc où ça se passerait parce que tu sais, c'est un peu comme quand t'as ces couples qui divorcent et chacun veut faire une fête le même jour.
Ça serait assez surréaliste.
Personne n'arrive, tu vois, à s'accorder sur. Où doit se passer
et du coup,
le truc.
J'ai
après, c'est cool parce que ça commence à ressembler à l'histoire sans fin, leur truc.
Ouais, mais du coup, j'ai une autre question par rapport
aux Chinois aussi. Parce que je crois que les Chinois ont pas super apprécié.
C'est clair que c'était pas cool de parler chinois tout le temps. Et ouais, comme tu le dis, c'est long, ça fait longtemps que ça dure. C'est un peu une série. Et donc du coup, il y a le spin-off, c'est Maes qui a réagi il y a pas longtemps. Il a posté un message sur ses réseaux pour dire aux fans de Karis d'arrêter de le faire chier pour qu'il apporte son soutien à Karis sous prétexte qu'ils viennent tous les deux de Sevran. Et il en a profité pour apporter son soutien du coup à B2O. Suite à ça, sur les réseaux, il y a eu deux clans, on peut dire, qui sont ressortis. Ceux qui pensent qu'il a porté ses couilles en apportant son soutien à B2O et ceux qui pensent qu'il n'aurait pas dû dire ça parce que ça risque de lui retomber dessus. Voilà. Quel est
votre avis ? Après, est-ce qu'il apporte juste des émojis, quoi ? Est-ce que vraiment il apporte son soutien
En fait, quand il a quand même dit, à un moment, il cite la phrase de Booba dans PGP où il dit t'es mon ennemi, grosso modo, il n'y a pas d'ambiguïté. Enfin, tu vois, genre. Donc on peut imaginer effectivement qu'il
prend
j'avais très mal cité. Donc du coup, effectivement, on peut quand même penser qu'en citant ça, il se range, il souhaite d'apporter son soutien à Booba, ouais, complètement.
Est-ce qu'il est produit par Booba?
Non, il n'est pas produit par Booba. Ils sont signés sur le même label, qui est Capital. Mais ils sont pas, en fait, on sait que Booba est proche, évidemment, de Maes, de son manager également, qui s'appelle
Madalena, qui tourne, qui cartonne.
Voilà, bien sûr. Donc, je pense que c'est un peu comme ce qui s'est passé avec plein d'artistes. C'est-à-dire que c'est vrai qu'on sait que le featuring, c'est pas le parrainage de Booba, parce qu'ils sont pas signés, il est pas signé chez Booba, mais le featuring, ça a beaucoup servi à Maes, même s'il avait un buzz avant. Et je pense que Maes, ça aurait marché. Mais après, voilà, Madrina, c'est devenu un tube.
Maes a dit sur les réseaux, excuse-moi, je te coupe, mais lui, il a dit, Karis, il m'a jamais apporté quoi que ce soit.
Alors, attention, moi, on m'a dit.
Il est en poste.
On m'a dit
les fans de Karis ont exhumé un poste de Karis où il détournait un son de Maes en 2016.
Quand Maes était
en
vraiment
disant,
pas
connu. Sevran, Sevrané, Force, ou je sais pas quoi.
Maintenant, c'est vrai que c'est sans commune mesure avec, Madrina, évidemment, qui a changé un peu la vie de Maes.
Il a apporté son soutien à Karis au tout début de Maes, mais en recrutant quelque chose, quoi.
Après, c'est un peu un débat de merde. C'est-à-dire que ça fait vraiment, genre, tu sais, embrouille de boys band, genre, ouais, mais lui, regarde, il y a 2 ans, il était pote avec Magin. En fait, on s'en fout un peu, tu vois. Mais le seul truc, et je crois que ça, c'est un message que peu de gens ont calculé, mais Maes, une fois qu'il y a eu justement tout ce... toutes ces réactions et commentaires sur les réseaux, parce que forcément, les fans de Karis sont traités de suceurs, etc. Mm-hmm. Bon, ça, tu vois, c'est le truc classique. Il a refait un message, en fait, où il disait, mais... moi, un de mes producteurs est proche de Booba.
Ouais.
Moi-même, je suis proche d'un membre de l'équipe de Karis.
Un de ses producteurs est proche de Karis.
Ouais, un de ses producteurs, il l'a dit. Un de ses producteurs est proche de l'équipe à Karis. Il a dit Maes. Mais peu importe.
Anyway. En gros, il s'est un peu extrait du truc en disant arrêtez de fantasmer.
Il a dit qu'il était proche humainement et professionnellement et artistiquement de Booba, mais qu'un de ses producteurs était proche de Karis.
Mais grosso modo, il connaît pas Karis, il connaît Booba. Enfin, Pour moi, il y a pas. C'est en vrai, c'est une fausse histoire, quoi.
En fait, c'est juste parce qu'il vient de la même ville qu'on le fait chier. Donc voilà.
En fait, c'est un peu ça.
C'est juste parce qu'on vient de la même ville.
C'est vrai qu'il y a aussi ce fantasme d'unité. Excuse-moi, d'unité à Sevran. C'est vrai que tous les artistes de Sevran sont très proches, notamment la nouvelle génération. Et on les vous a vu ensemble. Il y a le clip de Zidane de 13 blocs où il y a énormément de monde dedans, sauf Caris. Donc les gens se disent, ouais, c'est quoi le problème? Voilà. Après, il a.
C'est pas la même génération.
Et puis il a aussi droit de pas être proche de Caris.
Voilà. C'est quand les gens ils captent pas trop. Ben moi, j'arrive à capter le truc parce que Sevran, je pense que c'est un peu comme Évry. T'as plein de quartiers et t'as plein de quartiers qui ne s'aiment pas. Donc du coup, Caris, il vient d'un quartier différent de Maes, donc ils sont peut-être de la même ville, mais ils sont pas du même quartier. Donc du coup, il a effectivement rien à voir avec lui, tu vois.
Okay.
Et je pense que c'est ça. Et les gens, ils pensent que Sevran, c'est une unité, alors que non, c'est plein de quartiers différents.
Puis en plus, pour ta question, vas-y.
Maes était quand même cette semaine au concert à la Machine du Moulin Rouge, donc faut souligner aussi.
Moi, c'est ça que j'allais dire. Voilà. C'était le même jour, en fait. Donc tu vois, quand tu demandais est-ce que ça peut lui retomber dessus. Je pense que pas du tout, non. Il a blindé sa salle le soir même, tout le monde s'en foutait déjà.
Ouais, ça peut lui retomber dessus. Je pense que les gens, ils disaient plutôt, par rapport au fait que Booba, dans un an ou deux ans, peut-être qu'il sera plus pote avec Maes, bah quoi. Tu vois ce que je veux dire? Et les gens lui retomberont dessus en disant, ah, regarde, t'as apporté ton soutien à l'époque.
Bah après, par rapport à ça, je pense que C-Boy devrait donner des cours à peu près tout le monde. C'est-à-dire, lui, il est signé chez Booba, c'est un artiste 9 de I, il s'est jamais mêlé d'aucune embrouille, et c'est tout, tu vois, il mène sa route tranquille. Pour un mec qui est pas signé, pareil, Niska aussi devrait donner des cours. C'est un mec qui a des cours de neutralité, tu vois.
Ouais,
juste
t'es proche
de Booba, après, tu vois, mais t'as jamais été dans les clashs.
En fait, c'est une question de point de vue, c'est-à-dire que tu peux te dire que, en étant proche d'un artiste comme Booba, tu dois être loyal, et du coup, enfin, tu vois, prendre ses patins, faire des choses comme ça, tu peux aussi te dire, en fait, c'est pas mes histoires. Il y a deux manières. Moi, quand tu parles avec les gens, t'en as qui vont dire, mais c'est normal, Damso,
mais c'est ce que
pas
je disais au début, c'est qu'il y a deux clans sur Internet. Il y a ceux qui disent, tu prends ses patins, t'as raison.
Et d'autres qui vont dire, ils s'en foutent. Genre, Damso, c'est pas ses histoires. Enfin, tu vois, c'est deux manières de voir le truc. Et je pense qu'en fait, Maes, il est un peu.
Moi, je pense que Maes, il a réagi surtout parce qu'il était saoulé de voir sur ses réseaux un truc qui a rien à voir. Et il a envie de dire, laissez-moi tranquille, surtout, et qu'au final, il a, des fois, peut-être que c'est bon, un peu dépassé ses paroles.
C'est un truc qu'on a pas trop dit, mais apparemment, ils se font limite vraiment spammé sur Instagram tous, que ce soit Booba, Maes, Caris,
avec
que des, enfin tu vois, que je pense si t'allumes ton portable tu vois que des trucs genre t'es un traître,
c'est
relou.
Très bien, sujet éclos, on va enchaîner avec autre chose parce qu'il y a eu pas mal d'actualités cette semaine, on a beaucoup de choses à survoler. Donc Medine face à Damien Rieu, je sais pas si vous avez vu cette interview.
Qui a fait un zénith quand même la semaine dernière, Medine, il faut
qui
le
a
dire.
Fait un zénith, c'est très bien passé. Ouais, apparemment, j'ai vu ça sur les réseaux, j'ai vu quelques images, ça avait l'air très cool. Et donc il a accepté une interview qui est sortie cette semaine face à Damien Rieu. Damien Rieu qui est quelqu'un qui a été proche de la génération qui a été le porte-parole de génération identitaire. On va dire qu'il est proche de l'extrême droite,
je crois
qu'on peut dire ça.
On peut le dire
comme ça, voilà, une interview d'une heure, c'est une longue interview, ça dure très longtemps.
C'est un procès.
Est-ce que Medine aurait dû aller accepter cette interview d'après vous?
Bah mais c'est son game, hein, Medine, il aime ça, se confronter aux gens qui ont des a priori. Donc il est allé. Moi j'ai pas vu l'interview encore, mais apparemment c'est un guet-apens parce qu'il savait où mettre les pieds.
Après
ça va pas à son avantage.
J'ai le sentiment que Medine se défend pas très très bien. Et j'ai le sentiment aussi que l'accusateur Damien Rieu aussi, il a une fixette, c'est clair, sur les musulmans, il a un vrai problème. Il y a un terroriste derrière chaque musulman, un terroriste en puissance. Donc ils ont du mal à se comprendre et du coup ça donne un espèce de truc bizarre sur une heure.
Moi j'ai regardé que 10 minutes.
Ouais.
Et ce qui m'a dérangé, c'est qu'en fait c'est cool la contradiction. Et c'est bien, ça, c'est intéressant que Medine aille se confronter à ces gens. Le problème, c'est qu'il est sur un média qu'il maîtrise pas du tout et qui est pas du tout neutre, puisque c'est sur la chaîne de Damien Rieu, grosso modo. Mm-hmm. C'est lui qui fait le montage. Et quand tu ne connais pas Medine et que t'es un Français lambda et que t'as vu sur BFM Medine, le rappeur islamiste, quand tu vois le début de l'interview, ça te rassure pas du tout, en fait. Parce que on te ramène que des vieux dossiers sur
Medine. En tout cas, le Damien Rieu est parti chercher des infos sur Medine. Il dit dès le début de l'interview que le côté Medine, l'artiste, ne l'intéresse pas. Il est persuadé, en fait, dans sa tête que Medine donne une facette au public d'un artiste, on va dire, de gauche, que, en fait, que tout ce que nous raconte Medine, c'est du mytho, que c'est pas la personne qu'il est, qu'en vrai, Medine est un islamiste.
En fait, souvent, les gens de l'extrême droite,
c'est expert à islamiser la France.
En fait, ça aurait été mieux d'avoir un débat avec lui, mais modéré par quelqu'un de neutre, en fait. Ouais, et d'avoir vraiment. Ça, là, le problème, c'est que c'est Damien Rieu qui est modérateur, animateur et monteur après. Et du coup, ça crée un déséquilibre dans le propos, quoi, je trouve.
En tout cas, je sais qu'on a refait la soirée de Genono quand on lui a dit regarde, c'est ta
Saint-Valentin.
C'est vrai que tu nous as dit que c'était ta meilleure Saint-Valentin. Ce qui est très étrange, quand même, par rapport. Ça pose des questions sur
tes précédentes
Saint-Valentin
en général. Mais en fait, c'est vrai que j'ai lancé le truc en me disant, tu sais, en n'étant pas super motivé, parce que honnêtement, quand tu me dis Medine face à Damien Rieu, bon, De base, ça a l'air chiant. Les 10 premières minutes sont limite soporifiques. Et il y a un truc super bizarre, c'est que toutes les questions de Damien Rieu sont orientées sur un truc de ah, tu connais, t'as fréquenté Tariq Ramadan, ouais. Tariq Ramadan a dit ça, toi, qu'est-ce que t'en penses?
Ouais.
Donc à chaque fois, Medine ouais. répond, bah va poser la question à Tariq Ramadan, tu vois, c'est pas à moi qu'il faut demander ça.
Il lui parle d'une association.
Ouais, il lui prend beaucoup la tête sur Havre de Savoie, voilà, voilà. Parce qu'il a été ambassadeur, mais en fait. Mais en fait, ça, c'est plus en mode ambassadeur dans le mode rap, je donne de la force.
Ouais, en fait, ça, c'est toute
association. Et lui, il dit non, t'as été ambassadeur, donc tu cautionnes tous les propos voilà. sur le site.
Mais en fait, j'avoue, ça, c'est toute la première partie de la vidéo où tu sens que Medine, il est un peu les mains dans les poches, il s'était pas préparé à ouais. ce ouais, genre c'est d'attaque. Ça. Donc, c'est pas top pour Medine, cette partie-là. Après, par contre, moi, après, en gros, perso, marrant. C'est, voilà, moi, je l'ai regardé en entier parce que j'adore l'humour. Mais, et concrètement, c'est vrai que t'as l'impression, alors, je sais pas si c'est parce que, justement, c'était tombé la semaine de la Saint-Valentin, mais t'as l'impression que c'est un speed dating raté. C'est-à-dire que, Medine, il arrive, il est en rose, il est un peu open. L'autre, il est pas là pour les préliminaires. Il veut vraiment se le faire, mais dès la première question, tu vois, c'est
comme ça. Comme Bigard, direct.
Et en gros, t'as effectivement le moment où Medine arrive à lui faire dire mais par exemple si j'étais mort, tu vois, parce que c'est vrai qu'il y a eu un groupuscule qui voulait assassiner Medine et sa famille, et Damien Rieu arrive pas à dire autre chose que non, moi toutes les manières, pour moi un islamiste mort c'est mieux, tu vois. Et il met genre 10 minutes, non allez,
il met
2-3 minutes à lui dire,
faut mieux en rire qu'en pleurer,
il met 2-3 minutes à se rendre compte que ça a peut-être mal passé à l'écran, ouais. À se dire non, mais en vrai voilà, moi je suis quand même contre la violence et tout, mais il y a vraiment 2 minutes
où il
galère, où il lui dit,
on sent qu'il est persuadé que Medine est un islamiste,
ouais,
mais il lui dit pas comme ça. Après, et après, il lui dit en gros, moi, je suis pour qu'un islamiste mort, c'est mieux qu'un islamiste vivant. Ouais, en gros, c'est ce qu'il lui dit. Quoi.
Il dit qu'il
voilà,
quoi.
Et après, il y a plein d'argumentations super bancales. Genre, à un moment, il lui ressort la pochette de Hostile 2006, ouais. où Medine était sur la tracklist. Et tu sais, la cover, c'est une grenade qui a des écouteurs. Et,
Medine n'a rien à voir avec
voilà,
ça.
Voilà, et le mec en face, tu dis, bah, qu'est-ce que ça vous fait d'être dans un disque avec une cover comme ça?
Là, c'est un peu dommage. C'est un peu dommage que Medine, il avait une autoroute pour se foutre de ça.
Ah,
justement,
ouais.
Et il le fait pas vraiment.
Moi je trouve qu'il se défend très mal, Medine. Honnêtement, il se défend pas très mal, mais c'est parce qu'il est sur autre chose, Medine.
Mais c'est ce qui est marrant, c'est que les deux sont tellement dans un truc différent. Ils se comprennent pas du tout, ils parlent pas de la même chose.
Qui dure une heure. C'est un dialogue de sourd.
C'est comme si nous on avait à répondre toutes les vannes de Yérim. C'est sa mère, c'est pas la même. C'est ton bourbier,
débrouille-toi.
C'est vraiment le décalage entre les deux qui est vraiment spectaculaire.
En gros, concrètement, t'as un fan du commandant Massoud qui parle à un fan de Vercingétorix. Ça peut pas vraiment matcher entre les deux, tu vois. Bon. Mais maintenant, c'était pas la rencontre la plus bizarre de la semaine, parce qu'on a quand même eu. Attends, on a quand même eu quoi? C'est pas ce que j'avais marqué, mais déjà on a eu Cyril Hanouna et Marlène Schiappa à l'Assemblée. C'était plus chelou. C'était plus chelou.
Et que Medine et Damien Rieu.
Et on a eu Al Capote dans une ferme à produits laitiers.
Ah oui, c'est vrai, c'était une belle
connexion. Si vous voulez voir Al Capote traiter des vaches de pute, allez-y.
Rendez-vous sur Check.
Effectivement, je vous ai raison de le préciser. Un truc plus léger, j'ai vu sur les réseaux qu'il y avait le retour de PNL. Est-ce que vous avez des infos sur le retour de PNL? Et ne me dites pas, Fif et Mehdi, que vous gardez les infos pour calme et pour vous scaper.
Si je garde pour personne, je les garde pour moi. Je vais être très clair avec toi. J'ai quelques infos.
Ah!
Je ne les dirai pas ici. Parce que je veux vivre. Je tiens la vie. J'ai une femme. J'ai une femme.
Tu dis ça déjà sur les réseaux, tu vas être harcelé par tous les fans de, de PNL.
Non, mais j'ai pas d'infos, j'ai rien du tout.
Non, t'as zéro info, rien du tout.
Non, moi, je te jure, j'ai pas d'infos. La tête de
j'ai zéro info, mais j'ai tout dit à Généono en antenne avant l'émission.
Exactement.
Donc maintenant, il a autant d'infos que moi. On est deux.
Je suis dans
le même bateau, Généono.
Vous savez pas, date de sortie, ça approche. C'est pour le fin d'année, le milieu d'année. Qu'est-ce qui se passe? Non.
Je sais même pas. Normalement, alors là, je sais pas si on peut le dire, mais normalement, c'était prévu à la fin de l'année 2018.
Oui, ça c'est vrai.
C'était annoncé pour janvier.
Ouais, teasé,
Janvier, non, ils avaient rien dit, tu vois. Mais
non, mais les médias avaient un peu extrapolé, un petit peu.
Après, c'était normalement janvier 2019, et là, je sais pas, ça se trouve, ils sortiront ça pour les 3 ans dans la légende, le 16 septembre.
Bien sûr, Ademo, il a fait un post là sur Instagram.
Bah oui, c'est pour ça que j'en parle, il a dit qu'il travaillait dur.
Je pense, franchement, qu'on peut imaginer que ça va arriver forcément cette année. Je pense que ça va arriver avant l'été.
Mm-hmm.
Mais c'est une suggestion que j'ai. Voilà, je pense qu'on aura un disque de PNL. au premier semestre 2019.
Très bien. Premier semestre, tu t'engages.
Okay. Non, je pense. Voilà,
mais
je
et pense là, des infos, monde,
en fait. En vrai, ce que je viens de dire, je pense que tout le monde.
Peut-être pour les 1 an de Nan Wainties. Je sais pas quand c'est sorti un peu avant l'été. Peut-être, je sais pas.
Ouais, peut-être. Pour l'ammoniaque à la fin.
Ouais, ok. Puis en plus, là, il commence à envoyer de plus en plus d'extraits. Alors après, quand PNL envoie des extraits, ça veut juste dire que c'est un snap d'un mec dans une voiture qui filme un autoradio, quoi. Mais
ils envoient des extraits.
Parce que t'as toujours des gens qui disent, ça a l'air incroyable.
C'est ça.
Franchement,
il y en a un qui a marché sur moi, c'est génial. Celui qui ressemble à Mowgli par deux, en fait.
Oui,
il reprend son truc.
C'est charmé, ça.
Parce qu'en gros, Mowgli, c'était un son qui, pour le coup, est devenu connu sur le tard. Parce
un solo d'Ademo.
C'était un solo d'Ademo en mode PNL, mais qui était sorti avant le tout premier projet QLF de PNL.
Oui, il disait, je suis pas un rappeur, sans autotune, je suis claqué.
Ouais,
incroyable phase.
Et en parlant de sortie, d'ailleurs, il y a Jules qui prépare un nouvel album gratuit. Vous avez des infos là-dessus. Non. Je rappelle que nous, on enregistre le vendredi. Là, on est vendredi 15 février. L'émission est diffusée à la radio aussi le dimanche.
J'ai
et du coup, je me dis que ça se trouve que le... je dis ça parce qu'il peut tomber là, en fait. Là,
j'ai pas
d'infos,
mais
j'ai un conseil. Mars.
Non, il a, ouais, il y a une
date. Il a dit 1er mars.
Juste un mars la sortie.
Ok, d'accord. Arrêtez de parler d'album gratuit en 2019.
On est d'accord, merci.
Alors. Parce que 10 ans, on voit des chèques.
Pas là. Le business des albums gratuits.
À l'époque, ça avait du sens. Dans la mesure où, grosso modo, t'avais le physique comptait beaucoup plus que maintenant. Et donc, quand tu disais album gratuit, en fait, c'était juste un album qui était disponible en streaming, pas en physique, du coup, donc, que Jul balançait sur YouTube et sur les plateformes de streaming. Voilà. Mais en fait, comme aujourd'hui, pas tout le monde, mais beaucoup de gens dans le rap stream sur les plateformes de streaming, donc payent leur abonnement pour ceux qui sont en premium, donc ils payent 10€ par mois. Et en fait, c'est le cas pour tous les albums qui sortent.
Bah
donc,
oui.
Du coup, en fait, pour le public rap qui n'achète pas de CD, c'est quand même la grande majorité, tous les albums sont gratuits, enfin, sont accessibles via un abonnement en streaming. Donc, en fait.
Surtout qu'il me semble que les albums gratuits de Jul, enfin, je dis peut-être une connerie, mais ils sont pas dispo, par exemple, sur iTunes, tu peux pas télécharger l'album d'un coup.
Ah bon? Si, mais non,
si.
En fait, t'as raison, il y a eu un moment où il balançait un morceau par jour, ce qui faisait qu'en fait, ça faisait 20 titres à la fin.
Mais il passait par sa chaîne YouTube
voilà,
uniquement.
Exactement,
pour faire ça.
Exactement. Ouais. Maintenant, ouais. Il est mis en streaming, donc en fait, ça va être disponible exactement comme l'album qu'il a sorti en décembre. Donc, il dit gratuit juste parce qu'il va pas le faire en physique. Et c'est vrai que Jul vend beaucoup de physique, donc pour le coup, ça a une différence pour lui. D'ailleurs, je comprends pas pourquoi il le sort pas en physique en réalité.
Mais
parce
c'est
que
pas 100% gratuit, quoi.
C'est pas gratuit, mais parce qu'en fait, on paye tous 10€ pour l'écouter. Enfin, ouais, pour ceux qui ont abonnement.
Un abonnement, ouais.
Donc,
En gros, c'est pour dire qu'il sera pas dans les bacs, sans pas en physique.
Voilà.
Mais
ça a pas de sens.
Après, le truc qu'il faut lui reconnaître, c'est qu'effectivement, il faisait cette démarche-là avant la période du streaming. Donc, effectivement, pour lui, ça a un sens de continuer de l'appeler.
D'autres gens l'ont fait, comme Naps. Naps avait repris la même technique. Et je crois qu'il y a un autre rappeur, mais qui va le faire prochainement aussi, mais c'est vrai que ce truc d'album gratuit,
attention, qui
j'ai pas le droit de le dire encore, je crois qu'il a pas encore annoncé.
D'accord.
Et puis il y a aussi ce truc là, c'est qu'aux États-Unis, il y a même plus, il y a les mecs quasiment plus de CD physique en fait, donc nous on est quand même une exception en France où les Français ont
ça dépend les artistes, mais les
artistes
qui vendent beaucoup,
grosso modo Walmart par exemple, qui est le plus gros truc de centres commerciaux là-bas, ne distribue plus de CD en fait là-bas,
donc voilà, du tout,
c'est pour ça que
il y a même pas un petit rayon, un petit,
il y a plus rien, c'est terminé,
une tête de gondole,
c'est terminé,
ça a été annexé par le rayon arme à feu,
on est aux États-Unis. En même temps, pendant que t'avais la parole, Mehdi, vu qu'on va terminer cette actu rap avec Hamza, je sais que t'es un grand fan de Hamza, donc
il a dévoilé
le tracklist de son album Paradise.
Mais c'est faux.
Ah non, mais ce qu'il le répète tout le temps, j'ai fini par le croire.
Tu es apparemment également son père.
Et c'est quoi, j'ai fini par le croire,
plus,
il le répète tout le temps.
L'info sur la paternité est plus réelle que le management.
Il me le répète tellement souvent, puis c'est seulement la quatrième fois qu'il me le sort.
Mais ça va pas ou quoi?
C'est parce que t'es un grand fan, tu kiffes tout simplement.
L'amour est sincère et pur. Voilà.
Tu comme toi et Alonso. Donc
oui,
moi, c'est pas pareil, c'est de l'idolâtrie, c'est encore autre chose.
Qu'est-ce qu'il y a? Quelle est ta question?
Eh ben, il a dévoilé le tracklist. Oui, est-ce que t'as été surpris? Est-ce que toi, tu connaissais le tracklist depuis longtemps?
Je répète,
quand même, il y a des feats, il y a, je crois, 19 titres, il y a quand même pas mal.
Il y a 17 titres.
17 titres.
Il y a des feats, c'est SCH, Aya Nakamura. Il y a un morceau avec Christian The Queens et Oxmo Puccino.
Ah, c'est sur le même?
C'est le même morceau, ouais.
Ah, ça, c'est cool.
C'est le même morceau, c'est l'outro de l'album, d'ailleurs.
Ok.
Voilà, mais non, franchement, je suis content. J'ai pas encore écouté l'album, pour être très honnête. J'ai écouté quelques titres. Je crois que quelqu'un est sur toi la table à écouter, mais je veux pas. Voilà.
Je regarde personne.
On dit tout aujourd'hui.
Je sais que le 21, il fait une soirée, une release party.
Tout à fait.
Ah, cool.
Mais le 21, je serai à Radio France en train de regarder Je t'aime de Laila Si avec Val.
Ah oui, ça, c'est la gueule.
Ah, mais cool. Je sais pas comment on dit ça.
D'ailleurs, le teaser a l'air très cool. Val a l'air d'être très bon comédien.
Super bien, franchement.
Et il y a un figurant à l'arrière-plan du troisième court-métrage, incroyable.
Ça, c'est toi, c'est toi. En tout cas, pour Hamza, super chaud. Ce qui est cool avec les feats, c'est que ça a l'air d'être des vrais feats d'album. Ouais. Contrairement à ces mixtapes où c'était des mecs qui connaissaient. Là, tu sens qu'ils ont une envie de passer à autre chose. J'ai pas écouté le projet, je suis assez enthousiasmé. J'ai bien aimé Paradise. Je trouve que c'était pas forcément le meilleur extrait envoyé en single, mais ça, chaque fois ça avec Hamza, tu vois, c'était pareil sur Destiny Child, sur 994, alors qu'au final, c'est clairement le meilleur projet depuis Thriller de Michael Jackson, 994. Donc du coup, je suis assez confiant sur ce projet et je pense que ça va être bien.
Mais le morceau avec Christine and the Queen, tu t'attends, et Oxmo Puccino, ouais.
Ce sera le morceau chelou.
Alors franchement.
Attends, tu penses à ça va être un morceau chelou?
Je peux pas dévoiler, mais tu vas adorer ce morceau. Parce qu'il y a un sample.
Pas sûr.
Non, mais il y a un sample.
Il y a un sample qui va parler à mon cœur.
On en parle en antenne.
Ok. Ok.
Il y a un pur sample, en tout cas.
Non, mais en tout cas, franchement, moi, je préfère
disco,
que ce soit
sample hip-hop,
un trio,
sample funk.
Non, c'est pour les amoureux des années 80.
Les amoureux des années 80.
Et de Danny Dan. Je peux pas en dire plus.
Ah, oh là là. Okay. C'est déjà beaucoup. Allez, restez connectés. C'est toujours After Rap avec moi, Mehdi Maizi, Fif de Bouscapé, Genono et Yeri. Mais on va parler aussi un peu des ventes de Lacrim et de l'artiste. Il y a eu beaucoup de sorties de clips.
C'est pas la même personne.
D'albums. Non, c'est pas la même personne. Et des fois, on pourrait confondre, c'est vrai. Tout de suite,
non,
c'est
blague,
dans ce monde de la fouine. Genre, dans ce monde de la fouine, ça aussi, on va en parler tout à l'heure. Restez connectés, vous êtes sur Move After Rap.
J'écris pour les oubliés, j'écris pour les mecs à voir. J'écris pour les écroués, gros, j'écris pour les mecs au square. On est toujours pris pour cible, j'ai pas besoin d'être crédible. La daronne pleurait au parloir. Et moi, je restais insensible pour les petits qui veulent signer pro. J'écris pour les frères au trou, sans capot, je la mets au fond, gros, je suis pas Costa Smith. Trop glou, ils nous tirent dessus, les gilets jaunes sont devenus gilets rouges. Je me suis marié avec la rue Roya, c'est une mauvaise épouse. Si je te tourne le dos, c'est que quand j'avais rien, t'étais pas là. Ils ont enfermé Ramadan, alors pourquoi pas Benalla? Pas de justice pour Adama, rien n'a changé depuis Obama. Le rap engagé s'est désengagé, la fille a des putains. J'ai grandi dans l'illicite, j'ai jamais su ses débites. Je sais que là t'es sur repeat, les vestes vont se retourner vite. T'as pas écarté pour percer, pour ça que tu taffes au Mac Drive. Dans le rap y'a plus de putes qu'au 5-5-5. Ils sont sous GHB, ils vont finir en HP. J'fais pas preuve de lâcheté, j'ai pas besoin de me racheter. La jalousie t'a achevé, non moi rien ne peut m'acheter. Le quartier peut briser tes rêves, demande à MHD. J'ai toujours des choses à dire, j'ai grandi là où ça tire. Autour de moi ça part en couille, gros, plus ça suce, plus ça sentir. Ouais la vie est un combat, gros, j'ai les points d'Apollo Creed. Et si je raconte n'importe quoi, petit, c'est que la bouteille est vide.
Parce que je ris et je meurs dans ce monde. Oui, je ris et je pleure, mais j'affronte.
Oh. Et je l'aime d'un amour inconditionnel. Je veux rentrer, mais la juge a refusé ma conditionnelle. Je dois rester.
Parce que je ris et je meurs dans ce monde. Oui, je ris et je pleure, mais j'affronte.
Oh. Elle a taillé depuis, plus rien n'est pareil. Je fais les fils, mais cette gorge ne peut pas me ramener auprès d'elle. C'est la merde. Ouais, ouais.
Et ouais, c'était le tout nouveau son de La Fouine DCM sur Move.
Move
After Rap
jusqu'à 20h.
Move
Pascal Sefranc.
Et ouais, c'est toujours After Rap. Mehdi Maizi, Fif de Bouscapé, Genono, oui. Yerim avec moi autour de la table. On va parler des ventes de Lacrim et de l'artiste. Mais vu qu'on vient d'écouter le titre de La Fouine là dans ce monde, petite réaction sur ce titre quand même. Vous aimez bien le retour de Lacrim?
Il est toujours dans son délire retour à l'ancienne un petit peu. Là, par exemple, le sample c'est le même que sur la compile de Kéops. Je crois c'était un son je crois que c'était avec Soprano et Sacco
parce qu'il l'a teasé très fort hein, sur les
meilleurs lendemains, je crois, un truc comme ça, ouais. Bref, c'est un sample qui a déjà été utilisé dans un son rap français à l'ancienne et bon, écoute, il continue de faire son truc. Après je sens que tu veux parler d'une phrase en particulier dans ce
morceau, de la punchline de sur MHD, le quartier peut briser tes rêves, demande à MHD. Mais les gens étaient en sang en tout cas sur les réseaux, c'est pour ça que je vous en parler, savoir si vous... Oui, sur les réseaux, mon cher.
Bah écoute, je pense que tout est question de timing. C'est-à-dire que là, c'est peut-être un peu tôt pour faire ce genre de phase sur MHD.
De ouf.
Après, tu vois, c'est un peu comme quand t'as tweeté sur la Ligue du LOL, le machin. Il n'y a pas d'équivalent à ce genre d'affaires dans le rap. Et tout le monde a fait, c'est peut-être un peu tôt. Tu vois, et deux jours après, t'as eu une nouvelle
Type Dark Ellie ou un truc comme ça.
Non, mais en gros, grosso modo, j'ai expliqué que sur Twitter, le rap soi-disant est un milieu misogyne, tu vois, soi-disant depuis longtemps dit c'est un milieu misogyne, misogyne. Ouais. Mais bizarrement, en 30 ans de misogynie, on n'a pas eu d'affaires comme MeToo, Balance ton porc ou la Ligue du LOL.
Donc, je me suis dit, bah.
Attention,
on n'a pas été au courant.
Non, attention, parce que les exemples que j'ai cités, c'est des organisations, c'est des trucs qui sont faits pour détruire des femmes. Nous, dans le rap, il n'y a pas une organisation pour ça. T'as peut-être des mecs
qui font
des
chelous. L'appart de Pierre Bélanger qui était fait pour ça.
Là, tu parles du.
Magnifique.
Du PDG du groupe.
Ouais, il est chaud.
Je suis désolé, à un moment, il va falloir remettre les pieds dans le pied.
Attends, avec les trois quarts.
Mets en l'air ce conducteur.
Il y avait quand même les trois quarts du rap français qui sont venus défendre ce mec, pas pour cette affaire, mais pour qu'il reste en poste. C'est vrai que... c'est pas de ta faute, c'est qu'il y a eu... deux jours après, il y avait une nouvelle vidéo d'Arkeli
qui va être attaquée apparemment, vraiment là pour le
coup.
Voilà,
c'est du 14 ans, donc a priori on est... C'est le moment où t'as la journaliste de CNN qui fait « J'ai vu les images ». Elles sont perturbantes.
Quand tu dis c'est pas pareil, mais Bélanger finalement dans la, à peu près dans la même tranche d'âge.
Si on peut arrêter de parler de la concurrence sur ce ton.
Voilà.
C'est vrai que ça fait une pub quand même.
On n'est pas vraiment en train de refaire la meilleure des pubs, hein, ça
va. Ouais, mais bon, quand même, justement, c'est une histoire de justice.
Tout à fait.
Voilà, vous voyez ce que je veux dire.
Justement.
Ah bah, Sidi, il a été condamné pour corruption de mineur, donc il y a pas de souci.
En tout cas, pour revenir sur R. Kelly, il me semblait qu'il y avait une vidéo à l'ancienne déjà qui tournait où on voyait pisser sur une fiste il y a au moins 20 ans et.
Et bah, il y en a une nouvelle.
Pourquoi ça n'avait pas choqué les gens à l'époque?
Ça avait choqué,
mais il est en fait, c'est là que tu t'aperçois qu'il était malheureusement surpuissant dans l'industrie.
Ouais, il est intouchable,
et il se croit, c'est ce qu'on comprend quand on regarde le documentaire sur Brian R. Kelly. Ouais. C'est incroyable comment on est arrivé. On est parti de la fouine pour arriver à R. Kelly. Je suis pas sûr, les mecs. Je suis pas sûr.
Je l'ai pensé, mais j'ai rien dit. Je me suis dit, mais comment on a fait pour en arriver là?
Pas sûr. Pas convaincu par l'enchaînement.
Vous êtes chelou, hein.
Mais en tout cas, on voit effectivement qu'il se croyait absolument surpuissant et intouchable. Et ben voilà, finalement, ce documentaire est sorti. Là il a pas
de soucis judiciaires hein, techniquement.
Oui, mais ça va arriver, là, ils vont l'attaquer là.
Ça va arriver, voilà. Mais lui, s'il est pas con, ce que je t'avais dit la semaine dernière, il a annoncé une tournée Australie, Sri Lanka et Nouvelle-Zélande.
Ah oui, il va fuir le puits, il quitte le.
D'ailleurs, je vous encourage, tapez les noms de ces trois pays et rajoutez tourisme sexuel sur Google.
Il y en a deux sur trois.
Alors, Sri Lanka, ils ont des énormes problèmes avec l'esclavage sexuel de leurs gamins.
Mais toi, tu tapes des trucs sur Google. Pourquoi t'as fait ça?
C'est parce que je suis un journaliste.
Il y a un problème.
Et Nouvelle-Zélande, ils ont légalisé la prostitution, en fait. Et Australie, il y a des grands déserts, donc si tu veux enterrer des.
C'est ta théorie. C'est ma théorie. Il a choisi ses destinations, R. Kelly. Revenons sur les ventes. On a dit qu'on avait parlé des ventes de la crime. Là, pour le coup, j'ai que les chiffres à l'heure où nous enregistrons cette émission, j'ai que les chiffres de midweek, on appelle ça midweek, c'est-à-dire moitié de semaine, mais quand même 14 510 ventes au total mélangées physique, digital, streaming. Déjà, bon, qu'avez-vous pensé de l'album, quand même du double album de La Crime? Vous avez eu le temps de jeter une oreille depuis qu'il est sorti la semaine dernière?
Bah, fidèle à lui-même en fait. J'étais ni surpris ni déçu, c'est du La Crime quoi.
Ouais, moi, c'est vrai qu'en fait, je pense que j'ai vu plein de gens qui ont dit ouais, c'est mon projet, etc. Moi, je suis pas d'accord. En fait, je crois que le morceau avec 6ix9ine, ça n'a pas été le meilleur des signaux.
Très mauvais timing aussi.
Et puis c'est vrai que je trouve que le morceau, c'est un morceau de 6ix9ine, et je trouve que La Crime, il est pas très bon sur ce morceau, alors qu'il y a des morceaux vraiment genre Granada, qui sont mortel sur l'album. J'ai juste le seul reproche que je peux faire à plein double album, c'est qu'il est un peu trop long. C'est-à-dire qu'à chaque fois on se dit ça, c'est que si t'as un seul CD, t'as un bête d'album.
C'est
peut-être même
le
meilleur de La Crime pour moi.
Souvent, ouais.
Et du coup, t'as quelques morceaux qui viennent faire un peu baisser le truc. Mais ouais, après, La Crime, ça n'a jamais été un rappeur trop surprenant. La Crime pour moi, c'est jamais quand il y a des bonnes prods, quand il y a des gros bangers et il y a des morceaux qui remplissent ce rôle-là. Donc voilà, moi je trouve que le disque est.
Est-ce qu'il y a trop de feats? J'ai vu sur les réseaux
ouais,
qu'il y avait trop de feats.
Moi personnellement, les feats Kenry m'ont pas spécialement touché.
À part ceux des Greek Cross que je trouve vraiment bien.
Mais les Kenry, les morceaux, tu vois.
Kenry ou internationaux,
ouais,
parce
voilà.
Le morceau
que j'ai kiffé, c'est quoi mon meilleur morceau? C'est bizarre, mais peut-être parce qu'il sonne à l'ancienne, c'est celui avec
Kanye Samet. Il est incroyable.
Il est incroyable parce qu'on
est vieux et que ça nous rappelle trop les morceaux d'avant. Parce que les jeunes de 20 piges, ils aiment pas ce morceau. C'est vraiment un morceau comme on faisait avec quand t'appelles une chanteuse et tout.
C'est mon meilleur morceau, celui-là, je le kiffe. Et puis RS6, incroyable, intro, incroyable. Et le morceau même avec Cheikh Mami aussi, il tue.
Et là, on a dit que.
Non, on n'a pas dit que Cheikh Mami avait des problèmes judiciaires.
Non, ça on l'a pas dit, mais on a dit que, enfin, je viens de dire que pour les ventes au midweek, 14 510 ventes, c'est beaucoup.
Bah, c'est plus que la première semaine entière de Kaaris, donc effectivement, c'est très bien.
Voilà, et est-ce que les ventes sont-elles boostées par le fait que ce soit des doubles albums, par contre?
Bah, il y a plus de morceaux, donc il y a plus de streams, c'est l'important du streaming.
Mais après, la moitié en physique, quand même.
Après, moi, je trouve ça bien. Mais je pense qu'ils sont un peu déçus.
En physique, mais justement, est-ce que en réalité en physique 7247 albums pour être précis,
c'est pas mal.
Ouais, mais est-ce que c'est pas qu'il a vendu en physique en fait la moitié quoi. Je vais pas faire le calcul là.
Tu veux dire comme si en physique c'était dédoublé, c'est ça que tu veux dire?
Voilà. Non, rien à voir.
Bah non, même ça c'est quand t'achètes un double album, c'est ça. C'était comme ça à l'ancienne en tout cas. T'achètes un double album, c'était coupé deux albums.
J'ai jamais su.
Mais t'es vraiment vieux ce
point. Pour expliquer tout ça en même temps, s'il vous plaît.
Pour expliquer, t'as raison, c'est vrai que à l'époque ce qu'on disait, mais je sais pas si c'est vrai en fait,
non,
que quand t'avais un double album, ça comptait pour deux disques vendus.
Oui.
Mais je sais pas si c'est encore le cas. On me l'a dit, mais j'ai pas.
Donc du coup, si c'est encore ça, ça veut dire que Gims, quand ils vont triple album, un album, c'est trois albums.
Faut pas dire de trucs.
C'est vrai que c'est très chelou.
Non, non, parce qu'en fait, les gens, ils avaient dit ça à l'époque, comme c'est Rof, l'un des premiers, entre guillemets, qui avait fait ce truc-là avec La Fierté des Nôtres. Ils ont dit, oui, il a fait deux albums pour se libérer de son contrat et parce que ça fois plus.
Non,
c'est pas vrai. Non, c'est un album parce que c'est une référence. C'est le titre de l'album. C'est une référence.
Ok.
Ce serait deux références. Si
mais t'es sûr, ça n'a jamais existé. C'est une légende urbaine.
Non,
ça.
Je te jure. D'accord. Non, parce que c'est une référence. C'est La Ferté des Hautes et au-delà de la
limite. T'as juré, frère, t'as juré.
Et regarde, par exemple, pour le cas de Niro, c'est qui a fait Mensrea et Oxy est mort plutôt. Ça, c'est deux albums. C'est deux albums. Pareil pour Grekel.
Il y a un laps de temps qui sépare les deux sorties.
Et tout. Ouais. Mais pour quand c'est un album, un double album, c'est un album solo. Donc les ventes, elles se comparent.
Ok, je te crois, je te fais confiance. On continue avec les ventes de l'artiste et son album Quartier Latin. La première semaine, il a fait 5593 exemplaires pour être précis. Est-ce que c'est un échec ou pas? Je pose la question directement parce que c'est quand même un artiste qui fait des millions de vues en général sur les réseaux. Est-ce que ça
il a jamais fait d'énormes premières semaines. Déjà, il faut quand même rappeler que je crois que vous en avez déjà parlé dans une émission précédente, mais suite à la réforme des certifs, etc., ouais, c'est des chiffres quand même qui sont abaissés par rapport à ceux qu'on voyait il y a encore un mois ou deux mois. Donc forcément, la crime comme l'artiste aurait fait un peu plus. Après, si tu regardes, je crois que le précédent, c'est quand même celui où il y a Mafiosa. Je crois qu'il avait fait 10 000 en première semaine, quelque chose autour de 10 000. Donc c'est pas énorme pour un mec qu'un genre le tube, parce que si on regarde Mafiosa, c'était le morceau.
À l'époque, il avait peut-être pas la même notoriété. Aujourd'hui, le fait qu'il
avait déjà fait Chocolat, il avait déjà fait Chocolat, il avait déjà fait, c'était déjà énorme. Donc c'est qu'en fait c'est pas forcément quelqu'un qui va vendre énormément de disques sur les premières semaines. La question c'est est-ce qu'il a un tube sur cet album là qui va lui permettre de tourner pendant toute l'année. Je sais pas, on verra. Donc pour moi c'est pas grave pour la crime, pour l'artiste.
Normalement c'est une machine à tube.
On va voir, mais ça a jamais été un gros vendeur. Ouais, le problème de cet album-là, c'est que, tu vois, contrairement au précédent, t'as vu, il avait envoyé Mafiosa et Chocolat. Là, c'est juste qu'il a pas envoyé de tube en il a envoyé que des trucs un peu peurats. C'est comme si demain Soprano, il revient avec un morceau Kayara. Ça marchera pas ou Gims ou Black M. Eux, il faut qu'ils restent dans leur lignée d'envoyer des tubes, des singles. Mais il a pas mal de tubes dans son album, donc je pense qu'il va se vendre sur la longueur. Il va toujours sur la longueur.
Moi, je trouve que l'artiste, je pense qu'il faut qu'il accepte que c'est le rappeur préféré des enfants et des familles. Vraiment. Et
du coup, c'est pas le seul dans ce délire.
Ouais, mais lui,
il est entre les deux.
En fait, je trouve qu'il est trop entre les deux. Après, je suis pas D1, il fait ce qu'il veut.
Là, mais, c'est sa promo un peu trop hardcore.
Ouais, moi, si je suis l'artiste, je fais pas des morceaux avec Kobalade, Eus l'enfoiré, où je suis archi vulgaire. Je pense que par rapport à l'image qu'il a aujourd'hui, c'est comme Soprano, c'est un peu bizarre. Maintenant, il l'a fait. Peut-être que ça va cartonner, que les morceaux vont vachement marcher, mais je trouve qu'en termes d'image, c'est un peu bizarre
pour son public, le message
pour son public actuel en fait. Maintenant, l'artiste,
il a amassé un public large avec ses précédents.
Même sur les réseaux, il avait l'air assez vénère des fois par rapport à ce qu'il dégage en général dans sa musique. Il avait l'air assez remonté.
Après, c'est peut-être surtout ça. C'est peut-être que ça lui manquait, tu vois. Donc après, c'est vrai que c'est dur de lui dire, non, maintenant.
Oui, bien sûr,
mais c'est la passion maternelle.
Mais en termes de positionnement, je trouve ça un peu entre deux chaises, quoi. Tu vois.
Ouais, ouais.
J'ai envie de lui dire rap sale. Il a des mixtapes pour ça. En fait, il aurait pu faire une mixtape, rapper ça, et sortir un album.
Non, mais en fait, faut qu'il accepte. De toute façon, il l'a déjà dit. Il a dit, moi, je fais de la Zumba, j'assume et tout, mais faut qu'il assume pour de vrai que c'est un artiste qui fait de la musique.
Ça veut dire que quand tu fais de la Zumba, tu peux pas revenir.
Ah non, c'est dur, c'est
irrémédiable.
C'est un vortex qui t'absorbe, et après,
c'est mort. On va s'arrêter là-dessus.
Tu traverses, tu n'es plus jamais.
Et on va continuer en musique. Restez connectés. Vous êtes sur Move, c'est After Rap 1940. On est ensemble.
J'viens de la street, j'viens de la thèse, j'viens du bloc, j'viens des bas-fonds de la ville, man en gros, j'viens de la rue. On s'insiste, on leur prouve qu'on existe, le 5, qu'est-ce que t'as cru? J'ai creusé, mais j'n'ai toujours pas trouvé de pétrole, les autres sont fait crever. On quittait l'école pour une autre école, j'peux pas lâcher, échouer, j'pourrais fâcher la famille. J'crois que j'ai assez cravaché, on m'appelle plus la famille. C'est pas tout ce qu'il aura fallu, j'sais pas si j'obtiendrai le salut. Qui peut me stopper, qui est ou pour tout, même la rue m'a pas eu. Super héros. Super héros, super héros, super héros, super héros.
monté, je suis monté. Avec tout le poids des miens sur les épaules. Mais n'allez surtout pas vous tromper. J'ai jamais voulu devenir une icône. Je peux pas lâcher, échouer, je pourrais fâcher la famille. Je crois que j'ai assez cravaché. On m'appelle plus la famille. C'est pas tout ce qu'il aura fallu. Je sais pas si j'obtiendrai le salut. Qui peut me stopper, qui est oubé pour tout. Même la rue m'a pas eu. C'est pas tout ce qu'il aura fallu. Je sais pas si j'obtiendrai le salut. Qui peut me stopper, qui est oubé pour tout. Même la rue m'a pas eu. Super héros, eh, super héros.
C'était Dossé avec Super Héros, extrait de la BO du film Black Snake, le film de Thomas N. Gijol.
Jusqu'à 20h.
After Rap.
Move.
Et justement, la BO de Black Snake, est sortie ce vendredi 15 février. Qui l'a écouté? Qui veut dire un mot sur cette BO? Est-ce que c'est une bonne BO? Est-ce que les BO, ça sert encore à quelque chose d'ailleurs?
J'ai écouté vite fait. Bon, le truc drôle, c'est que Thomas N. Gijol pose sur quelques sons. Donc ouais, c'est drôle, mais
c'est un rappeur en herbe depuis longtemps.
Ouais. C'est ouais, il a, pour ceux qui connaissent, il avait fait deux feats avec un rappeur qui s'appelle LPHA. Voilà.
Black Pim Thomas.
Exactement. Exactement. Et donc voilà. Après sinon, je crois qu'ils ont envoyé aujourd'hui le clip du freestyle White Snake, donc Orelsan sur la BO. Et c'est on en parlait avec Mehdi pendant la pause, c'est que c'est pour les connaisseurs d'Orelsan, c'est un peu un morceau à la Jimmy Punchline.
Ah, je
c'est un enchaînement bon, juste à qui. Et il se permet en plus des fois des trucs vraiment plus piquants que sur ses derniers projets. Notamment une phase où il dit « des fois j'ai envie d'en finir, mais je me dis que je pourrais rester vivant jusqu'à voir la mort de Morandini. » Et c'est ça qui me donne envie de vivre. Et ça, c'est magnifique. Ça, c'est... Ah, en plus, t'as vraiment la tête de Thomas N. Gijol à côté de lui qui est
en... Il y a le clip. Ok, cool.
En tout cas, beau casting. Faut dire qu'il y a beaucoup de beau monde dessus. T'as Dossé, on a écouté le morceau. T'as Stromae, t'as MHD, t'as Dinos qui a fait un morceau qui est cool.
Je crois que ça a été produit par les mêmes producteurs de bout en bout.
Bah, c'est Scred, producteur d'Orelsan et qui réalise aussi les albums d'Orelsan, qui a produit tout ça en fait. Donc ouais, c'est cool.
C'est cool. C'est comme un album presque.
Ouais, complètement.
Ok, ben faut aller écouter ça alors parce qu'il y a du beau monde.
Ce sera mieux que le film. De toute façon.
T'as pas vu le film, t'es dur, on envoie de la force en plus à Thomas Njijol et à JP Zadi aussi qui est au scénario et qu'on retrouve tous les soirs dans des battles sur Move. Alors voilà, faut soutenir la famille.
C'est par rapport à JP que je dis ça.
Voilà, Bustaflex lui aussi, il a sorti Moonrock, c'est un EP, voilà, je crois qu'il y a 7 titres dessus. Ouais, qui veut dire un mot sur le retour de Bustaflex là dans...
Allez, t'as 3 secondes pour faire un jeu de mots avec le titre. C'est de la frappe parce que...
Non, c'est bon. Ce qui est intéressant, c'est qu'il s'est vraiment actualisé, c'est un truc super moderne. Sachant que venant de Busta, tu pouvais t'attendre peut-être à un truc peut-être plus à l'ancienne, un peu plus, peut-être pas boom bap, mais voilà, un peu plus dans cette idée-là. Là, il est vraiment dans un truc trap, que ce soit au niveau des flows ou des prods.
Et est-ce que ça marche? Ouais, est-ce qu'il est pas à l'ancienne un peu des fois ou quoi?
Non, du tout. Et justement, ce que je disais tout à l'heure hors antenne, c'est qu'il y a même un morceau où il dit, alors j'ai plus la phase exacte en tête, mais il dit en gros, on me demande de refaire du rap comme avant, mais le rap d'avant c'était de la merde. Donc tu vois, il est vraiment dans un truc.
Carrément.
Pour un mec qui a porté la marque, le rap c'était mieux avant, c'est un grand pas de
Et là,
je dois
arriver et tout.
Et ça lui fait, attends, je peux rebondir direct, ça lui fait un point commun avec Gianni, dont on parlera peut-être tout à l'heure.
Dans un instant, dans quelques minutes.
Parce que Gianni, il a une phase en mode, c'était mieux avant, je m'en bats les couilles. Il a un enchaînement magnifique comme ça.
C'est un peu dans cette idée-là. Et après, après ouais c'est bien parce que Busta ça reste un mec qui est quand même assez technique et tu sens que voilà il maîtrise son sujet et pareil au niveau des prods, ce que je disais aussi tout à l'heure hors antenne, c'est qu'il y a d'un côté des beats qui sont vraiment très trap et très modernes, et au niveau des instruments il y a un côté un peu plus jazzy, t'as un espèce de mélange entre les deux, et du coup ouais c'est plutôt réussi, c'est tu sens que c'est un projet un peu sans prétention où il s'amuse, où c'est franchement c'est 7 titres, c'est que de l'ego trip de A à Z. Mais voilà, c'est bien, ça fonctionne bien.
Il est encore bien frais en tout cas.
Ouais, il est en total indé aussi.
20 ans de carrière, il est en indé ouais, sur ce projet. Indé. Ok. Personne n'a mot à dire encore là-dessus.
Je suis d'accord avec tous les mots employés par Nono.
Eh ben, on continue avec Gianni. En plus, on a un extrait de Gianni.
Baby, nous, moi, drama. Nous, c'est la rue, moi, j'ai du drame. Ce soir, je ne serai pas dans tes drames. Je partirai voir de la moula. À ton rêve, je ne serai plus là. Mais pas pour soigner ses peines de cœur. La monnaie m'appelle.
Gianni, il a sorti son projet JN, je crois que ça veut dire enfer, je sais pas pourquoi, mais j'ai tapé JN ouais, comme ça.
Moi, je croyais vraiment que c'était un jeu de mots parce que ça fait Gianni, GN, GIGN, et pas du tout.
Enfin, vraiment, c'est... Pas du tout. Alors, qui a un mot à dire sur Gianni qui a écouté son projet?
Ouais, bien.
On l'a écouté, ouais.
Bien.
Ouais,
c'est cool. Moi, j'avais...
C'est qui, Gianni, d'ailleurs? Il sort d'où? Parce que c'est un newcomer, Gianni, ou ça fait un moment qu'il
Ouais, bah, il était, n'est-ce pas, FIF, dans les 11 rappeurs à suivre de Bouscapé.
Je sais pas, d'infos, tu te rappelles, si t'as suivi.
Non, je me rappelle pas.
Ok.
C'est comme avec Paoli. Exactement. Tu te rappelles quand j'en parlais? Non.
Il est dans les 11 rappeurs à suivre. C'est un rappeur de, je vais pas dire de bêtises. Je me rappelle plus le nom de sa ville, mais il a fait une série. Tu sais, je t'avais dit le rappeur qui a fait une série de freestyle où c'est de une minute où c'est des dealers qui rappaient son couplet.
Des clients.
J'ai dit quoi moi?
T'as dit des dealers.
Ah oui, des clients.
C'est
clients.
La même chose mais à l'envers. En fait, si tu veux, c'est
vrai. Donc voilà, et puis il a sorti son projet, et puis c'est marrant, tous les médias on a reçu un peu un packaging d'un
un
cocktail Molotov.
On a reçu un cocktail Molotov.
Un cocktail Molotov pour de vrai, avec un téléphone de Big Raver et avec écrit les blasts des personnes à chaque fois dedans. Donc non, niveau comme c'est cool.
Je tiens à dire que moi je l'ai reçu à mon nom, donc j'ai et au KLM on a reçu un message à l'adresse de Génération. Donc voilà, c'est un peu le respect. Zéro.
Mais
Big Up à
Janice. The Wire,
c'est Wire. Juste après, fini la communication top. Voilà. On continue avec YL aussi. Alors YL, lui, il a sorti un deuxième album deux semaines après Nyx et Ereb. Il a sorti le projet, si je le prononce bien, Aether.
Aether et Mera.
Aether et Mera.
Dans la tête, problème dans la tête, canard dans la feuille, paro sur les bords. Sur le zen, sur le bigo, que des échos, même ta daronne sur écoute.
Midi.
J'ai une info en direct du terrain. Ça vient de tomber apparemment. Lacrim 22K.
Ah voilà. Merci. Lacrim, on était pas loin. On a dit 20 000 à peu près que ça ferait ça, parce qu'on avait que les mythes tout à l'heure à 14 000. Eh ben big up à Lacrim en tout cas.
Excuse-moi. Et moi je viens de voir.
Quel mytho. Une notification de Jackie et Michel.
C'est exactement. Non en fait c'est dans le fameux face à face Medine Damien Rieux. Apparemment il buvait de l'eau dans des verres à vin. Et ça c'est vraiment
ça, t'as pas apprécié ça.
Après, je voulais voir Medine en train de boire un verre de vin. Là, ça aurait pu être un peu cocasse.
Non, c'est juste, tu mets pas de l'eau dans des verres à vin, c'est tout.
Ouais, il y a un peu de respect.
Ça, tu vois. Voilà. En plus, normalement, en face, c'était des bouffeurs de
sangliers. Est-ce qu'on peut parler d'YL quand même, qui a sorti un deuxième projet? Je disais, il a sorti un deuxième album deux semaines après son dernier album. Est-ce que c'était une bonne stratégie, selon vous? Ou pas, voilà, c'est ma question.
C'est une stratégie qui avait été payante pour Niro en tout cas. Ouais. Et YL a clairement dit aussi que Niro l'avait inspiré. Et Niro a toujours été un mec, enfin un des modèles entre guillemets de YL.
D'ailleurs, qui est sur son projet Nyx.
Ouais, sur le, ouais, tout à fait. Après, je pense qu'il faut voir ça comme un double album, hein, en fait. Enfin, ça a été conçu en même temps, donc c'est pas vraiment deux albums.
Parce que lui, il l'a joué un peu genre, c'est une surprise, mais en fait, c'était une moitié de surprise puisque
on
s'en doutait, voilà.
Il l'avait cramé dans le clip la prochaine.
Moi, j'avoue sur la stratégie, mais c'était pareil avec Niro. Après, ça a marché pour Niro, mais moi, je trouve que c'est parfois un peu compliqué. Tu sais pas trop quand ça sort. Il y a un album, un deuxième qui arrive deux semaines après. Je suis pas convaincu par la stratégie. Après, par contre, les albums sont bien. YL rappe vraiment bien. C'est ce genre de rappeur un peu comme, c'est pas pareil, mais comme Ornette La Frappe, dans le sens où leurs albums c'est toujours solide, je trouve. C'est des rappeurs efficaces. Tous leurs projets sont toujours solides, cohérents de A à Z. Et donc là, en fait, ça fait quand même.
Il y a une vraie base hip-hop.
Ouais, il y a une vraie base. C'est des rappeurs qui sont capables de faire autre chose. YL de plus en plus, il y a un morceau qui s'appelle Sauce là sur l'album qui est sorti aujourd'hui, qui est vraiment cool, qui est un peu plus pop. Donc il arrive à faire ça.
Je dis ça uniquement parce que c'est le nom de son émission.
Ouais, c'est tout.
Bon, c'est le seul morceau que j'ai écouté.
Moi, je pense quand même qu'il aurait dû vraiment en fait garder le secret.
Ouais, mais oui, ses auditeurs,
et vraiment
c'est pas
ne
des
pas laisser fuiter.
Plus.
Non, mais pas du tout laisser
ils auraient
fuiter.
Peut-être deviné.
Non, mais sans,
sans aucun.
Sans vraiment rien dire, lui garder vraiment ça, le secret le plus longtemps possible.
Ouais,
et que que nous-mêmes nous soyons vraiment surpris, parce qu'en fait on n'était pas surpris, on le savait depuis longtemps.
Après c'est la question que tu peux te poser aussi, parce que YL c'est un artiste qui est installé, qui était disque d'or, mais qui est pas encore une énorme tête d'affiche. Donc tu, est-ce que tu peux te permettre, quand t'es pas encore énorme, d'arriver sans promo, sans communication? C'est une question qu'on peut se poser.
Non, pour le deuxième
aussi.
Il parle, pour le deuxième.
Pour le deuxième,
ah,
pour le deuxième,
okay, d'accord, pour le deuxième,
dans le sens où c'était pas vraiment un secret en fait, et qu'ils auraient dû garder plus le secret autour de ça pour vraiment qu'on soit là. Ah, vous avez vu.
Et comme le premier a pas été un énorme carton, je pense qu'ils se sont dit bon, il faut. En fait, si tu regardes aussi YL, je pense que l'album a été repoussé, il était annoncé pour novembre à la base. Et on peut le dire, tous les extraits qui avaient été envoyés n'avaient pas énormément pris. Donc je pense qu'à la base, à mon avis, je pense qu'ils voulaient faire comme tu le dis, c'est-à-dire être en surprise totale. Et je pense que comme il fallait que ça buzz, il fallait communiquer, je pense qu'il y a eu une envie de communiquer et de reconnecter aussi avec le public et la fanbase, je pense. Et du coup, d'où cette. Moi, ce qui fait que c'est un peu flou pour moi, je trouve que la communication, elle n'a pas été très claire sur le projet. Mais après, les projets sont bons, c'est quand même le principal.
On est d'accord.
Après, pour moi, l'intérêt sur ce type de stratégie, alors je sais pas si c'est judicieux pour lui ou pas, mais je sais que moi en tant qu'auditeur, je trouve ça bien qu'il sorte un album il y a deux semaines et un album maintenant, parce que s'il avait sorti directement un double album avec je sais pas 35 ou 40 titres,
ça aurait été un peu indigeste.
Franchement, j'aurais écouté la moitié des titres, tu vois, tout serait passé un peu à la trappe et tout. Là, je prends un peu plus le temps de tout écouter, de tu vois.
Puis en plus, ça te fait l'arbre généalogique, parce que Nyx et Erem, en fait, leurs enfants dans la mythologie grecque, c'est Éther et Héméra et tout machin. Puis après, bon, il y a évidemment plein d'histoires d'inceste parce que ça reste la mythologie grecque, mais bon, pour l'idée, c'est.
Et son frère et sœur, non ?
En fait, Nyx et Erem sont frère et sœur, ils font des gosses, donc déjà, des gosses pas top, des gosses un peu à la Damien Rieux. Probablement. Et après donc Éther et Héméra, il y a des versions où ils ont des gosses, genre Gaïa la Terre, parce qu'en fait Éther c'est le ciel, Héméra c'est l'air, et il y a des versions où ils font des gosses, genre Gaïa la Terre, sauf que après
il a emmené son copulé, public loin là, YL.
Ça rigole pas la mythologie grecque. Hein.
L'instant culture
vite fait pour terminer sur les sorties.
On peut pas parler d'R. Kelly là.
Il y a un temps additionnel de Capoin qui est sorti.
Il y a un feat sur le YL qui est Monica Pereira ou un truc comme ça. Et quand tu l'entends la première fois, tu crois vraiment que c'est Soprano, c'est bluffant.
Sur l'album 2,
YL,
ouais, bah, il faut aller checker ça avec Capoin. Alors, qui a moi à dire sur temps additionnel de Capoin?
Ouais,
nous t'écoutons.
Ok, alors.
Je vais vite parce qu'il reste plus beaucoup de temps.
Pas de souci. Je crois que dès l'intro, il dit, Abba la S, oh mon dieu, qui a fini la netka. Et là, effectivement, tu sens qu'il revient de loin, parce que ça, c'est le genre de soirée parking où t'es avec trois potes et tu fais putain, les gars, la canette, quoi.
C'est vrai, je l'ai entendu.
Donc
cette
punchline. Non, après, écoute, l'album est peut-être un peu long, mais après, moi, je pars du principe que c'est, voilà, que c'est, ça te fait plus de choix et après, tu peux écarter les morceaux qui te parlent le moins. Il a pas fait la connerie de partir à fond sur le gimmick, regardez, je joue de la guitare sèche, Il y a quelques sons comme ça, mais pas tous. Il y a peu de feats. Et
guitare électrique, en plus, hein. Pas guitare sèche.
Il maîtrise le dos. Mais il y a un morceau avec
Rockstar.
Rockstar. Où là, tu sens qu'il a percé parce qu'il dit, je casse ma guitare comme une rockstar.
Ouais, mais
ça, c'est pas le
genre
de truc que, voilà. Je lui souhaite d'avoir les moyens de le faire dans chaque concert qu'il fera. Mais non, écoute, après, les feats bien utilisés, il y a Sadek qui dit de la, en gros, c'est un feat un peu latino dans l'ambiance. Ouais. Donc Sadek
Brésil.
Voilà, Sadek, il est sur son terrain et donc il dit rien ne me manque de la France à part le runard et la bouillabaisse, pardon.
Oui,
donc pas mal. Il y a GLK aussi. Ouais. GLK qui est vraiment super harmonieux, super doux sur sa manière de poser sur le truc, mais c'est parce que il te parle de trucs qui l'apaisent et qui sont très cool, genre à la fin du morceau il te dit ouais j'ai le sourire parce que je vois la file d'attente des Yankees, un truc comme ça. je vois les Yankees sortir du bat avec le sourire, c'est un truc comme ça. Donc ouais, écoute, c'est pas mal. Et puis ouais, non, c'est un
bon
Nino,
album.
Et il y a le truc de Nino qu'on avait
aussi,
déjà
cité à craquer. Tu voulais dire un mot, tu voulais rajouter quelque chose?
Non, je suis d'accord, moi j'aime bien Capoin, je trouve qu'il a son truc. C'est un peu long.
Est-ce qu'il devrait pas être plus haut un peu Capoin en termes de notoriété par rapport à ce qu'il propose au public? C'est quand même
que ça viendra.
Il y a la forme, ça paraît assez sincère, c'est musical, et en plus il a la guitare pour le côté artistique.
Ça va peut-être arriver. Après, si tu regardes Trap and Roll, ça a déjà une bonne année. Il s'est fait un peu discret entre temps. Tu sais, maintenant c'est ça qui est compliqué, c'est aussi ça qui peut expliquer aussi YL, le fait que ça ait peut-être moins démarré que le premier, c'est qu'il faut. Quand on ne voit pas pendant 6 mois, t'existes presque plus dans le rap français. Donc à point, je trouve qu'il était un peu rare. Là, il revient. Après, c'est compliqué aussi, tu sais, quand t'es un jeune artiste, de passer après Ma Cité à craquer, qui est un énorme tube, parce que Nino était sur le morceau. Et je pense qu'après, c'est compliqué de savoir quoi envoyer. Tu sais, parce que tu regardes Ma Cité à craquer, ça fait je ne sais combien de millions de vues. Le morceau qu'il a envoyé juste après, il plafonnait à 100 000 vues.
Ouais, donc, c'est clair qu'il tente plus ou autant du million, et que Nino, ça l'a amené à plus de 30 millions.
Voilà, c'est compliqué aussi, je pense, de savoir comment embrayer avec ça. Mais après, ça peut arriver. Et puis, il y a des artistes aussi qui peuvent avoir une carrière sans forcément être Ninho ou Niska, tu vois, peut-être qu'il va réussir à avoir son chemin et il a son truc
petit
en tout cas.
Petit, en tout cas,
en tout cas c'est un mec que je suis curieux de voir sur scène, ce qui est pas le cas avec tous les rappeurs français. Et lui, pour le coup, il y a un vrai, une vrai personnage.
Ça, contrairement à Lil Wayne, il s'est vraiment joué de la guitare, lui, apparemment. Donc ça, c'est cool.
Après, moi, je lui souhaite de douiller dans le sens peut-être arriver sur des plateaux télé en disant, tu vois, en jouant sur l'image,
faire ça, voilà,
tu
vois,
avec genre guitare voix, genre de voix du sale. Ouais, pourquoi pas. On va enchaîner directement avec les coups de cœur, les mecs. À la base, on devait appeler un rappeur qui s'appelle Zinz, mais on n'a pas le temps, donc ce sera peut-être pour la semaine prochaine. Zinz qui nous expliquera pourquoi il pense que Orelsan a peut-être un peu plagié, pompé son clip qui s'appelle Intro dans le
après,
clip
d'Orelsan lui-même, c'est plus
les réalisateurs d'Orelsan, mais c'est pour qu'on capte le titre en question. Et on enchaîne directement avec les coups de cœur. Donc on commence avec Genuno, tu vas nous parler de LK de l'Hôtel Moscou, je dis pas de bêtises.
LK de l'Hôtel Moscou qui a sorti un EP qui s'appelle Aphélion. Et en gros, c'est si vous êtes un peu suicidaire et que vous hésitez entre mettre fin à vos jours et continuer, c'est le projet qu'il faut pour vous décider à se terminer.
terminer sa vie. Extrait.
Je regarde le monde s'effondrer lentement. J'observe la mort me tenter tendrement. Peut-être la drogue va me gagner entre temps.
Ou lundi matin pour attaquer la semaine, c'est
bien. Ouais, c'est parfait. Franchement, quand t'es au fond du trou, faut vraiment pas te mettre là-dessus. Donc voilà, c'est il y a un côté, c'est vrai très dépressif et voilà, ça te parle de drogue dure un peu comme solution à ça. Donc bon, c'est pas forcément le truc super joyeux. Après, il y a un truc aussi un petit peu mystique et presque métaphysique, parce que déjà le titre a fait Lyon. C'est...
Là, il vient de dire un mot au pif. Faut le savoir.
Mais non, pas du tout.
Je rigole parce que c'est un tueur Genuno, faut savoir qu'il va nous chercher toujours les trucs les plus obscurs du
monde.
Je viens de cliquer sur le lien YouTube que tu m'as envoyé. C'est lui, aucune vue sa mère.
Ben voilà. On était là
j'ai
les premiers.
J'ai jamais vu ça, frère. Bon.
Donc juste pour
aucune vue.
Aucune vue. Bien voir, frère. Regarde, check.
Je sais pas où je suis parti.
Moi, je vais le connaître.
Où je vais les chercher.
Ah ouais, il va dans le darknet. Mais après, tu sais qu'il aime pas vraiment cet artiste. C'est juste un défi.
Non, parce que
il avait sorti l'Hôtel Moscou qui était un projet sympa.
Mais bien sûr,
je doute pas par contre de la qualité des artistes que tu trouves, mais quand même tu vas les chercher.
Ouais, bon, non, mais c'est bien, c'est un digueur de talent.
On est là pour ça aussi, bien sûr. Vas-y, viens nous continuer.
T'as un morceau qui s'appelle Satellite où en fait c'est du rap, mais il te parle de relativité générale, d'interaction entre les particules lourdes et tout. Donc déjà, tu sais, c'est très poussé dans le truc. Et même le titre du projet, c'est Aphélie. En fait, c'est le moment où un astre qui orbite autour du Soleil est au point le plus éloigné du Soleil, si tu veux. Donc ça fait, t'as le côté déjà un peu un peu métaphysique, et d'un côté t'as le truc où en fait c'est une métaphore de ce qu'il raconte dans l'album, c'est-à-dire qu'il est vraiment super éloigné de la lumière, il est dans un truc super sombre, et t'as l'impression qu'il a écrit cet album en étant je pense pas que ce soit le cas dans sa vie, mais en étant vraiment au fond du trou. Donc voilà, c'est. N'allez peut-être pas l'écouter, mais.
Ça a l'air cool, après, faut être en de bonnes conditions
avant d'aller l'écouter. Moi, je trouve qu'il déconne sur un truc, c'est que des fois, il a des meilleurs punchs sur Twitter que dans ses albums. Par exemple, là, il avait mis un truc, parce qu'il est, je crois qu'il est d'origine asiatique.
Ouais,
ouais.
Tout à fait.
Et donc, il était très saoulé par les trucs, genre Boubacaris. Et il y avait eu aussi un moment où il avait mis, c'est marrant, Gad Elmaleh, il a plus de problèmes. Pour quand il plagie des Américains que quand il insulte des Asiates.
Avec il avait fait une blague sur les Asiatiques avec Kev Adams qui était mal passé.
Ouais, j'ai trouvé ça pas mal. Moi, je l'encourage à le mettre dans des blagues.
Et on va terminer. On termine avec le coup de cœur de Mehdi. Yérim, on parlera la semaine prochaine. On va devoir zapper tes coups de cœur de la semaine. Désolé, Mehdi, à toi la parole.
Rapidement, non, c'est un projet qui est sorti la semaine dernière. C'est un projet d'un rappeur qui s'appelle Lovni. S'appelle Une nuit avec un bon gamin. Grosso modo.
Ah ben, en parlant justement de pédophilie. Alors.
Oh non. Une nuit avec un bon gamin,
c'est le collectif de Lovni, où t'as Lovni, Midsizer et Ichon, et c'est vraiment lui qui est à l'origine de ce truc-là, hein, de l'aveu collectif des autres. C'est un rappeur justement qu'on connaît, on va dire, depuis le début des années 2010. Faut savoir très rapidement qu'il avait un groupe avec Nekfeu et les membres de 1995, genre à l'ancienne vraiment, je crois que ça s'appelait POS Clan, et je crois qu'il était dedans. Après, voilà, ils ont arrêté de bosser ensemble. Ils ont fait leur truc avec Sizer et Ichon. Ichon et Sizer ont été un peu plus rapides à sortir des choses. Lovni, c'est son deuxième projet, parce qu'il avait sorti un truc qui s'appelait Pure avec Sizer il y a longtemps, mais qui était vraiment confidentiel. Là, c'est son vrai premier projet. C'est chamé, c'est très chill, c'est très ride. C'est très pour ceux qui écoutent un peu de rap américain dans l'influence Currency, Wiz Khalifa, ce genre de choses. Sauf que là, on va dire que l'alcool a remplacé la weed, la gnôle même. Et donc, ça m'a même rappelé moi un petit peu. Enfin, il y a des
Normandie.
Non, c'est LPHA. C'est un peu pareil. Parce qu'en fait, je sais que c'est un grand fan de LPHA et je trouve que dans le côté ride, dans la manière de décrire un peu leur soirée, il y a vraiment ce truc-là. Donc, c'est une soirée, en fait, qui raconte un petit peu, grosso modo, une soirée très parisienne, faite d'alcool, de femmes, de rap. Il y a beaucoup, beaucoup de références aux années 90. C'est très cool, c'est très simple à écouter et je conseille vraiment à tout le monde de
chercher là-dessus. Ouais. On ira checker ça. C'est cool. Aucun lien avec Jules.
Aucun lien avec Jules. Okay, vraiment pas du tout.
C'est cool parce que, comme il dit, effectivement, les gens, je pense, ont beaucoup retenu Ichon. Et même, t'en as certains maintenant qui étaient peut-être même pas au courant, tu vois, malheureusement.
Ouais, tout à fait.
Donc c'est cool si ça rééquilibre.
Exactement.
Ouais. Et bien, on va se quitter là-dessus, messieurs. Merci à vous d'avoir participé à cet After Hour.
Et merci de ne pas avoir parlé des victoires de la musique, j'en pouvais plus.
Moi, je peux te parler d'un truc.
Non,
17 février, soirée Wesh. Soirée Wesh, pour se caper.
Moi, je
suis invité ou pas?
Ah oui, viens, viens. Attends, parce que j'avais les noms des mecs qui ont acheté les streams. Mais apparemment, on peut pas le dire.
Il y aura Zola, Oleman, Cactus.
Move Love Club, Emy et Ayan. Salut à tous, ce soir à partir de 21h dans le Move Love Club, on recevra l'artiste Taïk pour la sortie de son projet Nixia. Il sera avec nous pour des morceaux en live, donc surtout rendez-vous à ne pas manquer ce soir à partir de 21h dans le Move Love Club. Tous les dimanches jusqu'à 23h.
Move Love Club. Tu es connecté sur Move à Toulouse sur 95.2.
Sur internet, move.fr.
Move! Move!